Bonjour mesdames et messieurs. Vous savez, moi je vais vous parler un peu autour de la musique et de la complexité musicale. Je n'entrerai pas au cœur des problèmes comme l'a fait dans son travail vraiment magistral Nicolas Darbon. Ce qu'il y a, en plus, mes compétences musicologiques sont nulles. Pourtant, je suis habité par la musique. Sans cesse, en moi, il y a un chantonnement intérieur, un air qui peut être celui d'une chansonnette, celui de l'opéra, celui d'une symphonie. J'ai toujours de la musique dans la tête quand je marche, quand je ne fais rien, tout ça. Bon, non, ben, c'est pas, ça ne suffit pas pour justifier ma présence d'esprit. Non, d'abord, je vais un peu introduire la façon dont je conçois, tout d'abord, l'esthétique et l'art, puisqu'évidemment, la musique relève de l'un et de l'autre. Je dis de l'un et de l'autre parce que l'esthétique ne s'identifie pas exactement à l'art. C'est-à-dire que si nous prenons le mot d'esthétique dans son sens premier, qui renvoie au ressenti, à quelque chose d'affectif, ces sentiments, ces émotions que l'on peut traduire approximativement par des mots comme admiration, et émerveillement, fascination, parfois même presque de l'extase. L'esthétique, ce sentiment, peut venir en nous des spectacles de la nature, d'un coucher de soleil, d'un vol tourbillonnant des tourneaux, et du point de vue sonore, et évidemment du chant des oiseaux, du chant du rossignol. Donc, nous voyons que le champ de l'esthétique est immense, que sans doute il relève des émotions fondamentales de l'être humain, et que du reste, l'art, c'est ce qui provoque, ce qui réussit à provoquer chez ceux qui le reçoivent, ce sentiment esthétique d'émerveillement, d'admiration et je dirais presque d'extase. Et pour parler de mon expérience musicale propre, ma révélation, si vous voulez, enfin la plus forte, ce fut quand j'étais adolescent. Je dois dire tout d'abord que ma première accession à la musique, c'est quand j'ai pu entendre par hasard sur une radio le premier mouvement de la symphonie pastorale, tout ça qui m'a vraiment enchanté. Alors de là, c'est après le concerto pour violon de Beethoven qui m'enchantait. Alors il y avait la 9e symphonie, concert l'amoureux, en salle Gaveau, où du reste j'étais à une place debout. Et alors je dois dire que dès les premières mesures, dès le début de cette symphonie, dès qu'il y a ce moment à partir d'une sorte d'état stagnant, va sortir des appels précipités, et à partir duquel va avoir ce déchaînement génésique, constructeur, fabuleux, n'est-ce pas, là, j'ai senti l'extase, vraiment. J'avais des cheveux qui sont tous hérissés sur ma tête. Et donc, ça a été la violence de cette émotion qui revient sans cesse. Bon, donc, montre que je crois que la musique peut nous donner des états extrêmement esthétiques, extrêmement intenses. Alors, tout d'abord, je dirais que ces sentiments, bien que en évitant la confusion des mots, puisque la musique c'est pas de la poésie dans le sens de la poésie écrite, versifiée, mais je dirais que la musique fait partie de la poésie de la vie, et la poésie étant entendue cette fois non plus seulement dans la poésie écrite, mais qui tout ce que dans la vie nous donne cette émotion qui est l'amour, qui est la communion, qui est la participation, qui est la jouissance. Et disons, d'un point de vue anthropologique, je distingue, j'oppose et je lis prose et poésie dans la vie. Prose, les choses que nous faisons par obligation, sans intérêt, mais auxquelles nous ne pouvons échapper, et parfois la prose submerge nos vies. Et la poésie, justement, là où nous retrouvons notre propre joie, notre épanouissement. Et donc, je dirais, la musique fait partie de cette poésie. Alors, je dirais qu'aussi, que si on reste au point de vue anthropologique, on peut constater que dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, il y a la présence de la musique. C'est-à-dire, dans les sociétés archaïques, non seulement elle est présente, mais elle est, je dirais, presque omniprésente, dans le sens qu'elle peut accompagner non seulement, disons, les prépas, les cérémonies qui correspondent au changement de saison, aux rites magiques d'hiver, mais elle peut accompagner les préparatifs de la chasse, la cueillette, et quand il y a agriculture, même les travaux des champs, la musique est omniprésente, c'est-à-dire elle a une capacité, je dirais, versatile dans le sens anglais du mot, c'est-à-dire capable de s'adapter à plusieurs occasions. Et elle est là, à la fois présente, avec un côté rythmique, avec un côté mélodique, bien entendu souvent accompagné de danse, parfois le rythme seul, c'est comme encore aujourd'hui à Salvador de Bahia, au Brésil, il y a un groupe musical, un groupe donc composé uniquement de tambour, petit tambour, grand tambour, et qui joue dans les rues. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nul ne peut échapper à ce moment-là, non seulement à l'agitation de son corps, mais à entrer en résonance physique avec ses rythmes. Donc, le rythme peut s'isoler, le rythme peut se combiner au mélodique, qui a cette capacité, je répète, versatile, de pouvoir participer aux fêtes sacrées, aux fêtes profanes, au rythme des jours. Alors, ce qui s'est passé dans le monde moderne, disons dans le monde occidental, à partir, disons en gros, de la Renaissance, c'est l'autonomisation de l'esthétique et bien entendu de l'esthétique provoquée par les arts. Par exemple, la peinture cesse d'être liée directement à la représentation sacrée des épisodes de l'Évangile ou de la vie de différents saints. Hein. C'est, au-delà de Cimabue et de Giotto, la peinture représente des choses profanes ou relevant de la mythologie grecque. La musique elle-même va commencer à se différencier et s'autonomiser. Enfin, bon, il y a tout un. Et donc, l'art et l'esthétique deviennent de plus en plus autonomes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est, disons, la complexité de la relation esthétique. Alors, prenez par exemple la tragédie grecque, où nous voyons évidemment des scènes terribles, c'est-à-dire inspirant la terreur, comme l'Oedipe ou autre, Bon, ce qu'il y a de certain, ce que disait Aristote, il y a une mimésis. C'est-à-dire que nous participons, nous vivons la tragédie des héros. De même que, alors pour prendre un exemple plus courant, au cinéma, aussi favorisé par la salle obscure, nous nous identifions, nous nous projetons, nous vivons, nous souffrons avec eux, nous rions avec eux, et pourtant, nous en sommes détachés. Nous sommes spectateurs. Et en nous, il y a une petite veilleuse qui nous dit, nous sommes spectateurs tout en étant à l'intérieur de ces personnages à laquelle nous identifions ou auxquels nous compatissons de la façon la plus profonde. Donc, la coexistence de cette distance et de cette présence, de cette intense présence, c'est ça la complexité de la relation esthétique et qui est présente dès l'enfance. En général, les soucis que manifestaient pendant un temps les familles devant, craignant des dangers du cinéma, puis des comics pour leurs enfants, ignoraient que c'est la relation esthétique qui est déjà présente très tôt. Alors, pour la musique, au concert, ou à l'opéra, c'est évident, on est spectateur, et pourtant, on est plus que spectateur. On vit. Et c'est ça, dans le fond, l'intensité de la relation esthétique. Nous vivons de façon inoffensive pour nous, mais pourtant très ardente, ce que vivent les personnages de l'opéra, par exemple. Alors, bon, il faut dire aussi, pour parler encore de, j'ai oublié de le faire, mais enfin, quand je parlais de la versatilité de la musique, elle continue à être liée aux cérémonies religieuses. Elle est présente dans toutes les cérémonies des grandes religions. Et de la religion de l'État, si l'on peut se dire, puisque Toynbee avait justement dit que avec l'État national s'établit un culte nouveau, la culte de la patrie, des héros, cérémonies qui commémorent les batailles, victoires ou défaites, et disons la musique est présente dans toutes ces cérémonies d'État, et en plus, bien entendu, la musique militaire, elle est aussi présente. Là, on voit réapparaître l'importance du rythme, du tambour, mais aussi de la musique, et voire du chant. Je viendrai à cette interpénétration entre les paroles et la musique. Mais pour arriver au caractère propre de la musique, c'est qu'elle nous parle sans parole. C'est-à-dire, c'est un domaine où les paroles ne peuvent accéder. Bien entendu, vous pouvez trouver des textes qui nous parlent, des caractères propres à telle sonate ou telle symphonie, mais évidemment, c'est une traduction appauvrissante. C'est quelque chose qui peut nous aider, mais ça ne peut pas, ça n'a rien à voir, disons, avec une traduction que ferait un poète d'un autre poète, comme par exemple la traduction d'Edgar Poe par Baudelaire. Non, c'est quelque chose. La musique, dans le fond, son caractère essentiel, c'est son indicibilité. On ne peut pas la dire ou l'appauvrir en la disant. Alors, c'est un langage, évidemment, qui nous parle pourtant, qui parle justement à notre affectivité. Et je dirais, c'est un langage de l'âme. Et là, je dirais, sous l'œil vigilant de mon ami Changeux, que pour moi, l'âme, c'est quelque chose qui est une émergence. C'est-à-dire, voilà, l'esprit, ce que nous appelons l'esprit dans le sens, disons, mind en anglais ou mente en italien, certes, parce que le français confond dans le même mot esprit le mental et le spirituel. Pour moi, l'esprit est une émergence du cerveau humain, il y a la capacité évidemment du langage, dans des conditions où il y a une culture, c'est-à-dire un langage, des habitudes, des savoir-faire. Et c'est parce que quand l'humain, le petit enfant, déjà disposant d'une aptitude innée, évidemment, au langage, se trouve dans ces conditions, son esprit émerge. Et je crois que la notion d'émergence, pour moi, est capitale, parce que l'émergence, ce sont des propriétés globales ou des qualités qui apparaissent quand un système est constitué. Hein. Alors, l'émergence, c'est le système, c'est le rapport entre l'individu et la culture. Et cette émergence, c'est beaucoup plus qu'une superstructure, qu'une émanation superficielle. C'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important. Et je dirais que l'esprit, c'est ça. Alors, l'âme, je dirais, c'est l'aspect affectif de l'esprit. Donc, je dirais que pour moi, l'âme existe. Elle existe non pas comme substance immortelle, ce que je souhaiterais certainement, mais enfin, elle existe comme ce qui apparaît. Et donc, c'est ce langage. C'est ce langage. Donc, elle connote l'indicible, à la différence du langage normal qui est dénotation. Alors là, peut-être, il faut aussi que je parle de la poésie, c'est-à-dire de la poésie versifiée, écrite. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans la poésie, c'est que c'est ce qui, par le langage, peut arriver le plus proche de l'indicible. C'est là où les mots, justement, cessent de dénoter des objets et des choses de l'existence empirique. Ils vont évoquer quelque chose d'autre, ils vont jouer entre eux et ils vont nous et le langage va se transfigurer, hein, les mots ne sont plus pris dans leur sens purement littéral de dictionnaire, et pour être aux frontières de l'indicible. Du reste, il y a un très beau titre du livre du poète Jean Bousquet qui s'appelle « Traduit du silence », hein. C'est-à-dire, effectivement, la poésie est toujours traduite de quelque chose qui ne peut pas être dit. Et alors, puisque la poésie est aux limites du dicible et que la musique, elle, est dans l'indicible, il peut se passer des combinaisons et des mariages très heureux, c'est justement dans le lied, et notamment dans les lieds admirables de Schumann, de Schubert, qui ont pris dans les poètes romantiques contemporains des paroles, et puis ça s'est continué avec Richard Strauss. Bon, alors à ce moment-là, il s'opère cette sorte de combinaison où la musique contamine les paroles pour en amplifier la beauté du sens, et où les paroles s'introduisent dans la musique pour lui donner une orientation sémantique. Alors, vous avez cette sorte de jeu, toujours, si vous voulez, la musique apporte un plus aux paroles, lesquelles apportent un plus, hein, la musique. Et évidemment, il y a une imbibation tout à fait extraordinaire. Et dans l'opéra, notamment, il y a des moments d'intensité extrême. Je pense à l'air de l'attente de Madame Butterfly, qui, à un moment donné, voit un bateau qui arrive, et alors qu'il s'imagine que de ce bateau va sortir un homme qui va marcher sur la colline et qui pense qu'elle va mourir de joie, et à ce moment-là, qu'a tellement bien rendu justement Puccini, nous, le spectateur, on sent une douleur extrême parce que nous savons qu'elle se trompe, que c'est une illusion. Et justement, alors on arrive à cette chose tout à fait extraordinaire où la musique peut traduire la douleur la plus grande pour la transmettre à un spectateur, mais sous une forme d'un bonheur esthétique, mais bonheur esthétique qui ne dissout pas la douleur qu'il apporte en lui. Par exemple, l'adagio du quintet de Schubert. Je connais guère de thèmes qui expriment aussi tragiquement la souffrance de Schubert. De Schubert lui-même, avec même un moment où il y a presque une révolte. Mais, et après cet apaisement, eh bien, je trouve que ceci, du reste, lie ensemble ces choses absolument incompatibles, qui est le bonheur musical, et le malheur que traduit cette musique. C'est l'expression de Beethoven, qui était un grand philosophe, il disait « Leiden durch Freude », la joie par la souffrance. Enfin, finalement, c'était un peu ça qu'il a voulu traduire dans sa 9e symphonie. Donc, nous avons cette harmonie, voilà, avec la musique et la poésie, où les mots, je le répète, perdent leur sens utilitaire, se combinent selon des attractions étranges, analogiques, métaphoriques, et donc, et ce qui permet que la musique même puisse poétiser la prose. Alors là, c'est, par exemple, bon, il y a Louise de Charpentier qui a voulu justement poétiser le langage le plus banal de la vie quotidienne. Mais il y a aussi, dans un langage qui est ordinaire, mais au sein d'une tragédie, comme Wojciech, n'est-ce pas, on sent que là aussi, la musique donne à une phrase tout à fait, qui peut sembler très banale, comme cette lune est rouge, hein, le monde est drôte. Hein. Bien entendu, la réponse, elle, est, n'est pas totalement prosaïque, puisque c'est « wie eine blutige Eisen », c'est-à-dire comme un couteau sanglant, hein, et c'est le meurtre de Marie par Wojciech. Mais enfin, il y a toujours cette transfiguration de la parole par la musique. Alors, donc, je dirais maintenant, y a-t-il une pensée dans la musique ? Moi, je crois que dans toutes les grandes œuvres de l'art, il y a une pensée. Pas seulement une pensée pour combiner les éléments, faire une peinture, etc. Non. Je prends un exemple, la peinture. Je prends l'exemple de la fresque de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, que l'on distingue très bien maintenant qu'elle a été nettoyée de la suie qui venait des chandelles. Bon. Alors, dans cette fresque, vous savez, où le créateur tend la main vers Adam, qui lui-même tend la main, donc qui a les yeux ouverts mais qui ne voit pas encore, c'est pas pour lui donner le souffle en quelque sorte. On voit que le Créateur est environné de quelques anges, mais on voit qu'il tient par le bras, qu'il tient embrassé une créature féminine qui n'est pas un ange, n'a pas d'aile, pas un ange. C'est-à-dire que Michel-Ange a voulu exprimer que le principe créateur masculin a besoin aussi du principe créateur féminin. Alors parfois, Beethoven l'a explicité dans son dernier quatuor, ben, mais c'est une pensée aussi très, très importante parce qu'elle est, elle est paradoxale, donc complexe. C'est « mus es sein, es es mus sein ». Ça veut dire « est-ce possible ?» Est-ce possible, ça veut dire, mais est-ce que vraiment ce monde dans lequel vivons, avec toutes ces cruautés, toutes ces atrocités, toutes ces douleurs, est-ce que c'est possible que ce monde existe ? Muss es sein, es muss sein. Oui, cela doit être ainsi. C'est-à-dire, si il combine la révolte contre le monde et l'acceptation contre le monde. Il nous dit que pour se révolter, il faut accepter. Mais pour l'accepter, il faut se révolter. Je crois que c'est... Et c'est pour ça que je dis qu'à mes yeux, Beethoven est un très grand philosophe. Et si je veux reprendre le premier mouvement de la 9e symphonie, ce qui est extraordinaire, c'est que... Bon, le message, c'est qu'il y a donc ce thème, le thème génésique, qui s'impose au début par deux fois. Ce thème va revenir tout au long du déroulement de ce premier mouvement et il va littéralement achever le mouvement. C'est-à-dire que le message est il faut toujours renaître, il faut toujours pas seulement recommencer, bien sûr, hein. Il ne faut pas recommencer à se lever tous les matins, bien sûr. Bon, il faut renaître sans arrêt. Il faut régénérer sans arrêt. Il faut toujours régénérer et renaître. Là, donc, je pense qu'on peut trouver un message dans toutes les grandes œuvres de la musique pensée. Je dirais maintenant que la... Donc, puisque la musique est indigible, c'est qu'elle est au-delà de la complexité, parce qu'une pensée complexe a besoin quand même de s'expliquer, de se manifester à travers des mots, à travers un discours. Donc, excusez-moi, je l'éteins. Donc, je dirais que et la musique est peut-être au-delà de la complexité discursive, conceptuelle. Mais évidemment, elle a sa propre complexité de façon multiple. Et là, je ne vais pas entrer dans le travail donc magnifique de Darbon, mais je vais. Ce qui est toujours autour, n'est-ce pas ? C'est. Un peu, bon, c'est ce que j'ai dit, dans une, puisqu'on cite cette phrase, je dis que la pensée est un mélange de précision et de flou. Bon, le flou étant dans l'emploi de termes polysémiques, à commencer par le verbe être, ou le verbe avoir, tout ça. Bon. Mais dans la musique, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, elle a son extrême précision, qui se manifeste dans la notation, c'est-à-dire dans le langage de notes, n'est-ce pas, qui est sur une portée. Un langage lui-même, qui n'est pas un langage de mots, mais enfin qui est un certain nombre de signes. Bon, il est extrêmement précise. Mais à cette notation extrêmement précise, s'ajoute une indication floue. Allegro Malantropo, bon, qui laisse la liberté totale de l'interprétation, hein, même Adagio, quelle lenteur, quelle ça. Tout ceci est une ouverture extrême à l'interprétation et, je dirais, l'inévitabilité de l'imprécision de ces termes. On ne peut pas les préciser, on ne peut pas aller plus loin que ces termes-là. Et du reste, c'est ça qui aussi qui permet diverses interprétations, les jeunes qui peuvent sembler aux uns trop rapides, d'autres trop lents, par exemple d'un allegro, et où chacun peut trouver l'interprétation qui lui convient personnellement. Alors, bien entendu, je passe sur la complexité orchestrale d'une symphonie qui est l'unité du multiple, l'unité du divers. Mais ce qui est intéressant, c'est la complexité systémique d'une œuvre musicale. Parce que là, le mot système est un système en mouvement. C'est-à-dire, il n'a rien de commun avec un système du type architectural. Et qui a du reste une base et un pilier. La musique n'a pas de base, n'a pas de pilier. Elle s'élève comme le ballon de Munkhausen, n'est-ce pas, qui s'élève en tirant sur les lacets de ses chaussures. Enfin, elle trouve, c'est dans son propre dynamisme qu'elle se construit. Donc c'est ce systémisme complexe qui est le propre de la musique, et bien entendu, dans les rapports entre les parties et le tout contamine des parties qui elles-mêmes contaminent de tout. Enfin, c'est une sorte de mouvement d'interprétation tout à fait étonnant. Et on peut dire que la phrase de Pascal que j'aime citer, dont on s'applique admirablement, en disant que je tiens pour impossible de connaître les parties si je ne connais, parce que toute chose étant causée et causante, c'est ça qui est hein, dans le processus de la musique. Aidée et aidante, hein, et toutes s'entretenant mutuellement. Je tiens pour impossible de connaître les parties si je connais le tout de tout le parti. Bon, et dans le fond, c'est ça, c'est ce dynamisme systémique, avec aussi, souvent, peut-être, pas toujours, mais la dialogique, c'est-à-dire pas seulement un dialogue, entre instruments, entre thèmes, parfois même dans les concertos, entre le piano, le violon et l'orchestre. Mais c'est-à-dire un antagonisme complémentaire. Il y a un jeu quand même où on sent que la complémentarité et l'antagonisme sont absolument indissociables. Et bien entendu, puisque je reprends la formule de Pascal et la musique, c'est un processus profondément récursif, c'est-à-dire où les effets, ce qui est produit devient producteur, est nécessaire à produire d'autres produits qui deviennent producteurs. On ne peut plus dissocier dans le déroulement de la musique ces notions, avec bien entendu des recommencements transformateurs et ininterrompus. Bon, je vais conclure cette introduction, et vous voyez, je tourne autour et je m'en excuse parce que je ne peux pas pénétrer. Je viendrai à une phrase, je ne sais plus qui l'a dite, je l'ai notée, mais j'en ai oublié l'auteur. Cette phrase, c'est: les arts sont le plus sûr moyen de se dérober au monde. Ils sont aussi le plus sûr moyen de s'unir avec lui. Alors, c'est ça, je crois que, bien entendu, Nous pouvons voir, en effet, dans les spectacles, au cinéma, au théâtre, dans la littérature, une évasion. Hein. Nous sortons de notre monde pour nous retrouver dans un monde imaginaire ou dans un monde de sons, de formes, etc. Évidemment, c'est une évasion. Hein. Mais, en même temps, c'est dans cette évasion que nous retrouvons le monde, c'est-à-dire effectivement dans le roman, que ce soit de Balzac, de Sieski, de Proust, etc., nous retrouvons le monde. Et dans la musique, nous retrouvons pas seulement notre monde intérieur, hein, qui s'exprime enfin, mais aussi quelque chose de cosmique qui est inséparable de ce monde intérieur. Et je pense qu'on sent à ce moment que les forces intérieures qui nous animent sont de même nature que les forces extérieures qui agissent dans le monde. Ça n'a illusion, impression. Et donc, il y a un caractère, je dirais, à la fois plus que biologique, parce que bien que nous nous sentons en nous-mêmes, bien entendu, l'invasion et la possession par la musique, mais c'est quelque chose qui irrigue notre vie intérieure, affective, je répète, de l'âme, ça nourrit notre âme, mais et en même temps avec une amplitude cosmique. Alors, effectivement, je crois que c'est de façon supérieure que la musique vit cette mission, en quelque sorte, que remplissent les arts, et avec sa complexité propre, cette mission qui est elle-même, disons, est complexe, puisque dans le fond nous nous évadons du monde pour mieux nous retrouver dans le monde. Et je ne peux terminer que là-dessus, en vous remerciant de votre attention.